Voici, on est dans 1 Corinthiens 6. Qui n'a jamais entendu la phrase suivante? L'union. Alors, vous l'avez déjà entendu. Hein? L'union fait la force. Saviez-vous que c'est la devise nationale de plusieurs pays, dont la Belgique, la Bulgarie, il y a aussi, c'est pas un pays, mais c'est l'Acadie, qui se trouve à être Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve, qui sont les Acadiens, ils ont ça comme devise, l'union fait la force, et il y a aussi le pays de l'Angola. De même, on retrouve cette même devise, l'union fait la force, sur les armoiries et le drapeau d'un pays où il y en a qui sont partis récemment pour servir à Tiverny, Haïti. Alors, ils ont cette devise sur leur drapeau et ça fait partie de leurs armoiries. La devise du Canada, elle, c'est... Hey, vous êtes bon, vraiment bon, d'un océan à l'autre. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je me souviens. Ouais, je me souviens que la devise du Canada, c'est d'un océan à l'autre. Alors, cette devise aurait été inspirée par la superficie du Canada. Parce que le Canada s'étend d'est en ouest, de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique, et aussi vers le nord jusqu'à l'océan Arctique. Et ce qui est moins connu, c'est que cette devise aussi aurait été inspirée par le psaume 72:8, qui dit ceci, « Il, en parlant de Jésus, en parlant du roi, en parlant du Messie, dominera d'une mer à l'autre et du fleuve aux extrémités de la terre. » Alors, il y a quelque chose de la parole de Dieu, même dans la devise du Canada. Maintenant, le texte d'aujourd'hui fait ressortir une vérité de l'Évangile qui est très importante. Et cette vérité, c'est la suivante. Notre union à Christ fait toute la différence. Et c'est ça que Paul va faire ressortir ici. Nous, c'est pas l'union fait la force, mais l'union à Christ fait toute la différence. Ça serait une belle devise pour notre Église, hein? Mais c'est la vérité qui est ici dans le texte. Et Paul va démontrer que notre union à Christ fait toute la différence à deux niveaux très importants. Et au début, quand j'ai lu 1 Corinthiens 6, il y avait comme deux sujets. J'ai dit, comment ça se fait que ces deux sujets-là sont dans le même chapitre? Ça n'a pas rapport les deux ensemble. Puis tout à coup, la lumière s'est faite quand que j'ai réalisé que c'est exactement ce que Paul est en train de communiquer. C'est que l'union à Christ fait toute la différence dans la façon qu'on va traiter nos différends qu'on a entre nous et dans la façon aussi qu'on va traiter notre corps qui est toujours sur cette terre et qui n'est pas encore restauré, mais que Dieu veut qu'on traite en fonction de notre union à Christ. Et c'est ça qu'on va voir ensemble ce matin, comment notre union à Christ fait la différence ou devrait faire la différence ou aurait dû faire la différence. Mais une chose est sûre, c'est que notre union à Christ, c'est elle qui fait toute la différence. Sans notre union à Christ, on est foutu. On n'est vraiment pas en voiture. On n'est pas capable de gérer quoi que ce soit. Ni notre corps, ni notre façon de relationner les uns avec les autres et les différents qui naturellement, en tout cas naturellement, oui, c'est ça, exactement, naturellement vont arriver. Des différents arrivent à cause de notre nature. Mais notre union à Christ devrait faire toute la différence. Et c'est ça qu'on va voir ce matin. Je vais vous inviter à prier avec moi avant. Alors, Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est vraie. Merci parce qu'elle est vivante. Et merci parce qu'elle nous ramène toujours à toi, Seigneur Jésus. Et ouvre nos yeux pour que lorsqu'on lit ta parole, on puisse voir que sans toi, tout ce qui est dit dans ta parole ne va nulle part. Sans toi, Seigneur Jésus, on est désespéré. Sans toi, Seigneur Jésus, on n'a aucun recours. On n'a aucune alternative. On peut essayer autant qu'on veut, mais ça va être un échec. Ça va être une défaite. Parce que sans toi, Seigneur Jésus, on n'est rien. Et sans toi, Seigneur Jésus, on ne peut rien. Et on a besoin de toi. Et on a besoin, Seigneur, de cette union avec toi. Une union qui est extraordinaire, une union qui est vraie, une union qui est vivante, une union qui est de cœur. Parce qu'on a besoin de toi, Seigneur. Notre cœur a été créé pour toi. Et nous t'invitons ce matin, comme on a chanté ce matin, « Oui, Jésus, tu es le bienvenu parmi nous. » Et Seigneur Jésus, tu es le bienvenu dans nos vies, dans ma vie personnelle, dans ma vie, dans mon foyer, dans mon couple, dans ma famille. Seigneur Jésus, nous voulons te dire ce matin que nous avons besoin de toi en 2013 et que sans toi, Seigneur, 2013 va être rempli de toutes sortes de situations qui vont nous décevoir, qui vont nous jeter à terre, qui vont nous ébranler, qui vont nous choquer, qui vont nous emmener à perdre les pédales, à déraper, à ne pas être capable de patiner, Seigneur. Mais avec toi, Jésus, chaque circonstance de la vie, quoique pénible qu'elle puisse être, va être complètement différente. Et c'est ce que nous te demandons, Seigneur, pour 2013. Que notre union à toi, Jésus, fasse toute la différence. En ton nom, pour ta gloire. Amen. Alors, je vais lire premièrement la première section, qui est les versets 1 à 11, où là, on va retrouver justement ce sujet-là de comment on doit traiter les différences qui arrivent entre nous, entre des frères et des sœurs dans la foi, en ce qui concerne les affaires courantes ou les affaires de la vie courante. Et ici, il semble y avoir un rapport des affaires qui sont aussi en lien à des choses matérielles. Alors, voici ce que Paul dit au verset 1 du chapitre 6. Lorsque l'un de vous a un différend avec un frère, comment ose-t-il le citer en justice devant des juges incroyants au lieu de recourir à l'arbitrage de ceux qui appartiennent à Dieu? Ignorez-vous que ceux-ci auront un jour à juger le monde en parlant des frères, des chrétiens? Si donc vous êtes destinés à être les juges du monde, seriez-vous incapables de vous prononcer sur des questions bien moins importantes, c'est-à-dire les affaires courantes de la vie? Ne savez-vous pas que nous jugerons même les anges? Et nous serions incompétents pour les affaires de la vie présente? Pas capables de faire ça entre nous? Or, si vous avez des litiges au sujet des affaires de la vie courante, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous établissez comme juges. Ces gens-là n'ont aucune espèce de rapport avec l'Église et l'Évangile et Christ. Et pourtant, vous allez vers eux pour avoir des conseils et de la sagesse et qu'ils puissent régler des situations que vous vivez conflictuelles entre vous. Comment est-ce qu'ils vont faire ça pour vous aider? Comment est-ce qu'ils vont prendre en considération les valeurs de l'Évangile? C'est ça un peu que Paul est en train de dire. Comment est-ce qu'ils vont prendre du temps avec vous pour prier? Pour consulter Dieu, votre Créateur, pour savoir comment vous devriez régler ces choses-là? Comment vont-ils vous conseiller de dire, « Hey, règle ça parce que c'est ton frère. » Viens, on va regarder comment Christ donne des conseils dans ces situations-là. Aime ton ennemi. Ah, tu dis que c'est ton ennemi, mais aime-le. C'est la première raison pour laquelle tu devrais l'aimer. Parce que c'est ton ennemi. Et Jésus t'encourage à aimer ton ennemi. Verset 5. Je le dis à votre honte. N'y a-t-il vraiment pas un seul homme sage parmi vous qui puisse servir d'arbitre entre ses frères? C'est un peu ironique aussi parce que juste un peu avant, les Corinthiens se vantaient d'être très sages et d'être même d'être plus sage que l'apôtre Paul dans bien des domaines. Et là, Paul, il dit, mais pourquoi d'abord vous vivez ces situations-là? Il est où, le sage dans votre Église, là, qui pourrait justement venir aider et faire la différence? Faut-il qu'on se traîne en justice entre frères et qu'on aille plaider l'un contre l'autre devant des incroyants? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que Christ fait la différence ici? De toute façon, vos différends constituent déjà une défaite. Et là, c'est comme, il met la barre haute. Imaginez-vous, là, Paul, il leur dit, « Anyway, oubliez ce que je viens de vous dire, entre guillemets, juste le fait que vous ayez des chicanes entre vous, des disputes, des litiges, déjà ça, c'est une défaite. Wow! Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt l'injustice? Pourquoi ne consentez-vous pas plutôt à vous laisser dépouiller? » Et autrement dit, ce que Paul est en train de leur dire, c'est pourquoi est-ce que Christ ne fait pas la différence? Pourquoi est-ce que votre union à Christ ne paraît pas dans vos relations? Et Paul est comme, pourquoi? Pourquoi est-ce comme ça? Verset 8, « Mais non, c'est au contraire vous qui commettez des injustices et qui dépouillez les autres, et ce sont vos frères que vous traitez ainsi. » Comment est-ce qu'ils font ça? C'est en l'emmenant devant les tribunaux, en faisant recours aux tribunaux. « Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part au royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les débauchés, les idolâtres, les adultères, les pervers ou les homosexuels, ni pour les voleurs, les avares, pas plus que pour les ivrognes, les calomniateurs ou les malhonnêtes, c'est-à-dire les gens qui font de la magouille, puis ils soutirent de l'argent des autres d'une façon qui est, je ne sais pas si vous avez vu le reportage, des fois il y a des professionnels, que ce soit des garagistes, que ce soit des avocats, des gens dans le fond où on est vraiment démunis. Et puis là, tu vas là, puis au lieu de te charger ce que ça coûte, ça charge 3 fois, 4 fois, 5 fois ce que ça coûte. Mais ça, c'est des gens malhonnêtes, où ils exploitent leur carrière pour se faire de l'argent sous notre dos. Ils nous rendent pas des vrais services, puis ils nous chargent, par contre, pour se faire de l'argent sous notre dos. Ça, c'est malheureux. Et là, Paul il dit, « Voici bien ce que vous étiez dans toute cette liste-là qu'ils viennent nommer, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été purifiés du péché. Mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. » Alors, comment traiter les différends entre nous? Il y a 3 scénarios. Avez-vous remarqué? Il y a 3 possibilités. Comment on doit traiter les différends? La première possibilité, c'est le recours aux tribunaux. Et ici, le but, c'est quoi? De quoi? Faire valoir notre droit à n'importe quel prix. Je veux obtenir justice. Et je vais aller devant les tribunaux parce que je crois que j'ai droit à quelque chose que tu me refuses de me donner. Et je vais t'emmener devant les tribunaux. Vous savez, moi, j'ai adopté, ou devrais-je dire, j'avais adopté, parce que je suis pas sûr que je l'ai encore, mais j'avais adopté un principe qui était le suivant. Jamais je vais me faire affaire avec un chrétien. J'ai prié avant, demandé au Seigneur si... Non, non. J'en avais assez vu que j'ai dit, jamais je ferai affaire avec un chrétien. C'est triste, hein? C'est vraiment triste. Savez-vous pourquoi? Quelle était ma motivation? Ben, j'ai dit, si j'ai un problème, je veux pouvoir l'emmener en justice. Ah, et pas pire, hein? un moment donné, il y a un chrétien qui m'a appelé. J'étais à Québec dans ce temps-là, puis il me dit, « Ah, Benoît, il dit, lui, il était en affaires, tout ça. » Fait qu'il dit, « Ouais, il y a un tel chrétien, il est venu me voir, puis il m'a demandé de lui prêter de l'argent. Qu'est-ce que je devrais faire? » Fait que moi, j'ai un principe. Jamais faire affaire avec un chrétien. Fait que je lui dis ceci. Il dit, « Écoute, je vais te dire bien honnêtement. Est-ce que si tu lui prêtes l'argent, es-tu prêt à la perdre, cet argent-là? » Ben, pourquoi tu dis ça? Ben, je vais t'expliquer quelque chose. Et là, j'ai cité ce verset, ce texte, en lui disant, regarde bien, si tu lui prêtes 10 000 $, il y a une possibilité qu'il ne te le remette pas. Hein? Ben oui. Ben voyons, maintenant, regarde. Je fais juste de t'encourager à réfléchir, OK? Après ça, tu prendras ta décision. Mais si tu y prêtes 10 000 $ puis pour toutes sortes de raisons, il te le remet pas, sais-tu c'est quoi l'option que tu as? Il dit non. Ben, il dit, va falloir que tu le perdes, ton 10 000 $. Ah ouais? Oui, parce que tu peux pas l'emmener en justice. C'est ton frère dans la foi. Si tu fais ça, c'est mal. Autant mal que lui de pas te remettre le 10 000 $. Fait que j'ai dit, as-tu les moyens? Savez-vous ce qu'il me dit? Il dit, il faudrait que je l'emprunte. Il dit, il faudrait que tu l'empruntes. Il dit, ouais, parce que là, il dit, présentement, bon, ta. Je dis, n'as-tu parlé à ta femme? il dit, ouais. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ben, pas d'accord. Ben, je dis, pour que tu fais que tu m'as appelé? Mais ça me travaillait en dedans. Lui, il est dans la misère, puis il est pas capable d'emprunter parce qu'il est pas solvable. Puis là, moi, mais je dis, toi, as-tu les moyens? Ben, il dit, non, je les ai pas. Ben, il dit, moi, la seule question que je te demande, un, ben là, c'est, si tu le remets pas, faut que tu l'oublies. Il va falloir que tu l'assumes, là. Puis deuxièmement, ta femme est pas d'accord. Veux-tu vivre heureux et longtemps? Écoute la sagesse de ta femme. Voilà une femme sage. Écoute-la. Seigneur l'a mis juste à côté de toi. Alors, je dis, j'avais ce principe-là, mais je suis plus sûr si je l'aurais encore. Savez-vous pourquoi? Parce que ce principe que je viens de vous dire, jamais je ferai affaire avec un chrétien, reflétait simplement mon cœur qui était blessé. Et maintenant, je prierai. Je ne dis pas qu'il faut faire affaire avec tous les chrétiens qui sont en affaires. Ça peut être très bien de ne pas faire affaire avec un chrétien pour X et Y raisons. Okay? Ce n'est pas une automatique. Il est chrétien, on fait affaire ensemble. Parfois, c'est mieux de ne pas faire affaire avec un chrétien pour toutes sortes de raisons, comme je dis tantôt. Mais est-ce que, par exemple, quand je me suis fait construire à Québec, il y avait un chrétien dans l'église qui était un entrepreneur. Et je n'ai pas fait affaire avec lui. J'ai fait affaire avec un incroyant. Et j'ai dû recourir aux petites créances et à l'arbitrage avec la PCHQ, tout ça, parce qu'il m'est arrivé toutes sortes d'événements. Mais vous savez, maintenant, pour moi, faire confiance au Seigneur est plus important que de me protéger. Alors, je n'interagis plus avec la vie de la même façon. Mais c'est sûr qu'une chose que je ferais, je prierais, je parlerais à mon épouse. Je prendrais une décision en fonction des données que j'aurais. Mais je n'aurais pas ce réflexe-là qui était de l'autoprotection. Puis c'était comme, puis il aurait pu avoir un très bon chrétien comme ce constructeur-là qui était quand même très bon chrétien. Mais il y avait eu des problèmes avec d'autres chrétiens. Pas lui qui avait causé des problèmes. Mais il y avait quand même eu des problèmes, puis c'était comme moi, en plus je suis dans le pastorat, je veux pas que ça crée, ça déborde dans l'église, ça fasse des conflits ailleurs, les relations, puis tout ça, vous savez, c'est très compliqué. Mais en tout cas, tout ça pour dire pareil que ça, c'est un scénario. Le deuxième scénario, c'est quoi? Paul a dit, le premier scénario, on touche pas à ça. Vous devriez pas faire ça. Là, ça montre que Christ ne fait aucune différence. Mais le deuxième scénario, c'est quoi? c'est le recours à l'arbitrage. Et si le but, c'est d'obtenir un règlement juste dans une situation complexe. S'il y a un différend comme ça, c'est complexe. Et on a déjà eu, en tant qu'Église, à aider des situations comme celle-là, et je peux vous dire que c'est complexe. C'est souvent très complexe, et il faut essayer de trouver un règlement le plus juste possible. Et c'est ça qui est recherché. Tout en consultant les Écritures, en prenant en considération toute l'information qu'on a, et finalement on prend une décision qui se veut être pour la gloire de Dieu. Mais c'est pas facile. C'est pas facile, je peux vous le dire. C'est vraiment pas facile. Et ça, c'est ce que Paul dit ici quand il dit « Au lieu de recourir à l'arbitrage de ceux qui appartiennent à Dieu. » Donc ça, c'est la deuxième option. La première, les tribunaux, on ne touche pas à ça. La deuxième, l'arbitrage, oui, c'est possible. Et le troisième, qui ça serait probablement le plus difficile pour chacun d'entre nous. Et c'est celui-là que moi, je voulais éviter à tout prix. C'était le recours au dépouillement. Autrement dit, si quelqu'un me donne quoi, puis c'est un frère ou une sœur dans la foi, et je dirais même ceci, c'est un membre de votre famille. Savez-vous c'est quoi l'Évangile qui nous encourage à faire, ou là Christ devrait faire toute la différence? C'est qu'on n'ait même pas besoin d'aller à l'arbitrage. Maintenant, je ne dis pas ça parce que l'arbitrage est mal. Non, la parole de Dieu nous encourage à aller vers l'arbitrage. Mais Paul dit, parfois, en consultation avec le Seigneur, dans la prière, avec votre épouse, c'est de se laisser dépouiller. Qu'est-ce que ça veut dire, se laisser dépouiller? Bien, ça veut dire, admettons, moi je suis dans une situation, puis on va dire là, l'autre dit, écoute, tu me dois 10 000 $. Ben non, je ne te dois pas 10 000 $. Puis moi, je suis convaincu que je ne dois pas 10 000 $. Mais l'autre, il est convaincu que j'y dois 10 000 $. Savez-vous comment c'est compliqué, ça? C'est vraiment compliqué, là. Puis là, tout à coup, c'est dit, écoute, regarde bien. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est pas aussi simple que ça. Parce qu'on est entre frères. Fait que la parole, tata, vous dit, là, c'est pas aussi simple que ça. Quand c'est simple de même, là, quand il y a des documents, puis ces affaires-là, des factures, puis tout ça, c'est assez simple. Mais souvent, c'est beaucoup plus complexe que ça. Des choses que je t'ai dit, je lui avais dit, mais c'est pas ça que j'y avais dit, mais oui, c'est ça que tu me dis. Puis là, bon, c'est qui dit la vérité? Les deux disent quelque chose d'opposé, fait qu'il y a quelque chose qui marche pas. Mais vous savez, c'est très compliqué, là. C'est vraiment complexe, ces situations-là. Mais là, à un moment donné, j'arrive, puis moi, je dis, OK, garde. Moi, je pense pas que je te dois 10 000 $. Mais j'ai prié. J'ai parlé avec mon épouse. Puis tiens, je te donne 10 000 $. Oh! Oh! Je vais vous dire quelque chose. Pour que ça m'arrive à moi, il faudrait vraiment que mon union à Christ soit solide. Parce que moi, subir une injustice, là, ça va direct à l'encontre de ma personnalité. Moi, je suis un battant. OK? Fait que si je te dois de quoi, je te le dois. Mais si je te dois rien puis tu me dis que je te dois de quoi, et mes amis, va me battre! Comprenez? Ça, c'est, je vous parle de naturel. Ma chair. Comment mon cœur irait dans quelle direction? Pour que j'aille dans une autre direction, je vais être bien honnête avec vous, là. Ça serait vraiment Christ qui dirait, regarde, Benoît, c'est correct. Donne-y 10 000 $. Fais-toi-en pas. Va prendre soin de toi. OK? Va m'occuper de la situation. Laisse faire. Fais-moi confiance. Je sais qu'est-ce que je fais. Puis mon épouse dirait, chérie, moi, je suis en paix avec ça. J'aime mieux que tu fasses ça. Je sais que mon épouse, elle, ça serait, elle n'aurait même pas besoin de prier, entre guillemets. Pour elle, son cœur irait tout de suite là. Ça serait tout de suite la générosité, tout de suite, garde, oui, 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 pas de problème. Elle va se laisser dépouiller facilement. » C'est un ange, mon épouse, que je voulais vous dire. C'est un ange. Mais moi, elle le sait que si j'arriverais là, elle partirait à pleurer tout de suite parce qu'elle dirait, je vois Jésus en toi, Benoît. Parce que si tu fais ce que tu fais, je sais que c'est parce que c'est Jésus qui t'a emmené là. Et là, ton cœur est ouvert, est détaché, et là, tu y remets tout entre tes mains. Et elle aurait raison. Et Paul dit, vous savez, notre union à Christ devrait faire cette différence-là. Mais je sais, là, que c'est pas humain. Pour certains, c'est plus facile. Pour d'autres, et habituellement, des gens qui sont en affaires, par exemple, ben, c'est des gens qui ont des personnalités quand même d'affaires. Comprenez? Fait que de se faire plumer le dos, comme on dirait, là, de courber les chignes, d'être, tu sais, tous ces termes péjoratifs-là, là, où il n'y en a pas question, je ne me mettrai pas à genoux, puis blablabla, blablabla, tu sais, tout ça, puis là, blablabla, puis blablabla. Comprenez? Je comprends tout ça, là. Je comprends tout ça. Mais notre union à Christ peut emmener un homme d'affaires par amour pour Christ, parce que Christ le dirige dans cette direction-là, à dire c'est correct. Je me laisse dépouiller avec le sourire. Vous savez, il y a un homme d'affaires qui s'appelle M. Letourneau. Je ne sais pas si vous avez déjà lu son livre, Dieu dirige mes affaires. Et cet homme-là était tellement un chrétien, mais il était un inventeur aussi. Il a eu tellement de succès dans les affaires qu'à un moment donné, il a commencé à donner 10 % de ses revenus. Il a monté à 20 % à 30 % à 50, 70, 80, 90 % de ses revenus, il les donnait pour l'œuvre de Dieu. À des causes, pour l'Évangile, son Église, bon, toutes ces affaires-là, mais 90 %. Savez-vous ce qu'il a dit à un moment donné? Il dit, moi, mon problème, là, il dit, c'est qu'est-ce que je fais avec le 10 % qui me reste? C'était malade, son affaire, tu sais. Mais à un moment donné, il y a eu un gros contrat, parce que lui, il était dans la machinerie lourde, là, puis il inventait des pièces pour les grosses machines, là, tu sais, des loaders, puis ces affaires-là, là. Peu importe le nom en français, là. Comment ça s'appelle, Sylvain? Toi, c'est quoi, tu... Un chargeur? OK, bon, un chargeur. Mais moi, un chargeur, c'est pour la batterie, là, puis... En tout cas, ces grosses affaires-là, ces grosses machines-là. Mais à un moment donné, il est venu, puis là, il y a eu un litige assez important de plusieurs centaines de milliers de dollars. Okay? C'était pas juste petit, là, c'était quand même gros. Puis là, il y avait justement cette dispute-là. Et savez-vous ce qu'a fait M. Letourneau? Parce que son union à Christ faisait toute la différence. Il a dit, OK, c'est correct, garde. Tu dis, tati, moi, je pense pas, c'est correct, mais garde, vas-y. Puis là, il s'est laissé dépouiller. Puis le gars est parti, l'autre chrétien est parti avec qu'est-ce qu'il y avait. Et savez-vous ce qu'il a dit, M. Letourneau, dans son livre? C'est son témoignage, c'est pas le mien. Mais il a dit, après ça, moi, mes affaires ont été de mieux en mieux. Et lui, l'autre chrétien qui était aussi en affaires, ses affaires ont été de moins en moins bien. Il y a quelque chose aussi qui se passe quand on fait confiance à Jésus, vous savez. Et je ne suis pas en train de prêcher la prospérité de l'Évangile, là. OK, tu donnes 10 $, Dieu t'en donne 100, là. OK, je ne suis pas là-dedans parce que parfois on peut donner 10 $ puis Dieu ne nous redonnera pas rien en retour. Le sacrifice ultime, c'est d'aimer Jésus. On ne l'aime pas parce qu'il va nous donner plus. Même s'il l'a dit, et là c'est lui qui l'a dit, il ne nous laisserait pas pour compte. Hein? Il prendrait soin de nous. Alors Jésus est vrai. Qu'est-ce qui arrive au niveau des conséquences? Ceux qui optent pour le premier scénario, qui est le recours aux tribunaux, devraient avoir honte puisqu'ils traînent leurs frères devant la justice et qu'ils plaident les uns contre les autres devant des incroyants. Versets 5 et 6. Ils ont été incapables de trouver un seul sage dans l'Église pour leur venir en aide. Verset 5. Pourtant, ils se vantaient d'être des sages. Au chapitre 4, verset 10. En allant devant les tribunaux et en dépouillant leurs frères dans la foi, ils commettent une terrible injustice. Verset 8. Pourquoi est-ce qu'ils commettent une terrible injustice? Parce que leur union à Christ n'a pas fait la différence. C'est tout simplement à cause de ça. Et là, Paul leur donne quelques vérités de l'Évangile à repasser dans leur vie, dans leur cœur. La première, ceux qui appartiennent à Dieu sont destinés à juger un jour, au jour dernier, le monde et les anges avec Christ. Alors, un jour, c'est le privilège qu'on va avoir. Ça fait partie de l'Évangile. au verset 2 et 3 qui mentionne ça. Une deuxième vérité, c'est que ceux qui pratiquent l'injustice, comme la débauche, l'idolâtrie, l'adultère, la perversité, l'homosexualité, le vol, la cupidité, la calomnie ou la malhonnêteté, n'auront aucune part dans le royaume de Dieu. Et là, Paul, il dit, vous êtes en train de pratiquer l'injustice. Mais ceux qui pratiquent l'injustice, c'est ceux qui n'ont aucune part dans le royaume de Dieu. Alors, vous devriez réfléchir à ça. Avez-vous une part dans le royaume de Dieu? Alors, pourquoi pratiquer l'injustice, si c'est le cas? Voyez? Versets 9 et 10. Troisième vérité, il dit, « Ceux qui sont unis à Christ ont été lavés, purifiés et justifiés de tous ses péchés. » Donc, il y a quelque chose de nouveau qui vient d'arriver dans notre vie. C'est qu'on n'est pas laissé à nous-mêmes. Christ est avec nous, au verset 11. Et finalement, au verset 11 aussi, il dit que « Ceux qui sont unis à Christ ont été délivrés de tels péchés. » Donc, Christ devrait faire la différence dans nos vies. Et là, si c'est pas le cas, posons-nous des questions. C'est ça que Paul essaie de faire ici, en disant, c'est ça que l'Évangile doit apporter dans votre vie. Si c'est pas le cas, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi votre union à Christ ne fait pas cette différence-là? Réfléchissez. Ceux qui optent pour le deuxième scénario, qui est le recours à l'arbitrage, montrent leur foi en Christ et leur respect pour l'Église, puisqu'ils reconnaissent que Dieu a pourvu à tout ce qui est nécessaire pour gérer de telles situations. Au verset 2 et 3. Vous voyez, déjà, eux sont en train de montrer que leur union à Christ peut faire la différence et que Dieu a pourvu dans l'Église à un mécanisme pour les aider, qui est l'arbitrage. Et déjà là, ça montre leur confiance à ce que Dieu a pourvu, ce qui est noble. Ceux qui optent par contre pour le troisième scénario, qui est le recours au dépouillement, montrent leur attachement à Christ et leur détachement aux affaires courantes de cette vie. Et ça, c'est le point de Paul. Ils reconnaissent que leur union à Christ a déjà fait toute la différence. Pour eux, leur union à Christ, c'est tout ce qui compte dans la vie. Il n'y a rien de plus important que ça, c'est d'être un avec Jésus. Ils sont vraiment attristés par de tels différends avec l'un de leurs frères. C'est quelque chose qui les attriste. Mais ils préfèrent souffrir l'injustice et subir une perte financière plutôt que de se battre. Et ils le font par motif de conscience, par amour pour Christ. Maintenant, Paul dit, peu importe le scénario que vous choisissez, que ce soit le premier où on va devant les tribunaux, que ce soit le deuxième où on a recours à de l'arbitrage, ou que ce soit le troisième où là, un frère se laisse dépouiller par un autre frère, peu importe le scénario, Paul il dit, c'est déjà une défaite en soi. Pourquoi? Parce qu'il y a des conflits entre frères. Même lorsque l'un se laisse dépouiller par l'autre, le fait d'avoir des différends, le fait d'avoir des conflits, des disputes entre nous, est une défaite spéciale. Hein? Tellement l'Évangile doit être puissant. Tellement Jésus doit faire la différence dans chacune de nos vies qu'on ne devrait même pas avoir des conflits entre nous. Imaginez-vous. Déjà qu'on ait des conflits montre qu'il y a quelque chose de Jésus qui n'est pas encore là dans nos vies, dans ma vie. Si c'est moi qui provoque des conflits, ben c'est ma vie, c'est mon cœur. Si mon frère qui, lui, se laisse dépouiller, ben lui, toute la différence de Christ est transparente dans sa vie. Mais le fait qu'il y ait eu un différent entre nous montre quand même que Christ n'a pas fait toute la différence dans nos affaires ou dans notre relation qu'on aurait dû avoir ensemble. Et c'est ça qui est triste. Parce que quand Christ fait toute la différence dans nos vies, la chair n'a plus d'entrain. Comprenez-vous? Maintenant, je comprends très bien, là, c'est utopique que de penser qu'il n'y aura jamais de différent entre nous. Dans un couple, il n'y aura jamais de différent entre moi et ma femme. Elle va toujours être d'accord avec moi. C'est utopique. C'est impossible. Dieu ne l'a pas créé comme ça. Moi, j'aimerais qu'elle soit comme ça, mais encore là, c'est ma chair. Ma chair voudrait que ma femme soit toujours en accord avec moi. Mais mon cœur n'est pas capable. Seulement quand mon cœur est uni à Christ, que là, tout à coup, notre relation a toute une différence. Je comprends ça. Mais ça n'enlève pas la vérité. Et ce qu'il veut dire, c'est ceci. Moins qu'il y a de union avec Christ, plus qu'il va y avoir de conflits, de disputes et de différends. Paul en a même parlé un peu plus tôt dans la lettre aux Corinthiens. Par contre, plus mon union avec Christ va grandir, et moins il va y avoir présence de pyrite dans l'Église, donc la chair, qu'est-ce qui va arriver? Plus il va y avoir d'harmonie dans nos relations, et c'est vrai dans un couple de la même façon. C'est vrai de la même façon. Quand tout à coup, chacun de nos cœurs trouve en Christ la paix et la direction et tout ce qu'on a besoin, on interagit différemment dans nos relations les uns avec les autres. Le problème, c'est notre chair. Tom Hale a dit ceci, « Ces conflits sont une preuve du caractère immature et charnel des Corinthiens. » Et c'est ce que Paul dit lui aussi. Maintenant, l'autre aspect, c'est comment traiter notre corps. Comment devons-nous traiter notre corps? Et là, c'est les versets 12 à 20. Et on lit ceci. Paul dit, « Tout m'est permis, certes, mais tout n'est pas utile pour moi. Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne veux pas me placer sous un esclavage quelconque. » Et là, il dit, « Les aliments sont faits pour le ventre et le ventre pour les aliments. Certes, cependant un jour, Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais attention, notre corps, lui, n'a pas été fait pour l'impudicité. Et le mot qui est ici, c'est pornéa, qui est la débauche, qui donne le mot pornographie. Alors, notre corps n'a pas été fait pour la pornographie, pour l'inconduite ou pour l'immoralité sexuelle. Il est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour le corps. Imaginez-vous, là. Alors, notre corps a été créé pour le Seigneur et le Seigneur pour notre corps. C'est incroyable, là, ce que Paul est en train de dire ici. En effet, comme Dieu a ressuscité le Seigneur d'entre les morts, il nous ressuscitera nous aussi, autrement dit notre corps, par sa puissance. Ignorez-vous que vos corps sont des membres du Christ? Vais-je donc arracher les membres du Christ pour en faire ceux d'une prostituée? Et ici, le mot, c'est encore là, porné, qui est une femme qui pratique l'immoralité? Sûrement pas. Voyons, ça n'a pas de bon sens. Ou bien, ignorez-vous qu'un homme qui s'unit à une prostituée, qui est encore là une pornée, c'est-à-dire une femme qui pratique la prostitution ou la pornographie ou l'immoralité sexuelle, devient un seul corps avec elle? Car il est écrit, les deux ne feront plus qu'un. Donc, il y a quelque chose au niveau de la sexualité qui est assez mystérieux. Parce qu'il y a une union qui se passe, qui est là, et qui est vrai dans le mariage, mais qui est vrai ici même dans une situation avec une femme qui n'est pas la nôtre. Mais celui qui s'unit au Seigneur devient, lui, un seul esprit avec lui. Donc, c'est vrai aussi avec Christ, on est un avec lui. C'est pourquoi fuyez l'impudicité, qui est le mot ici pornéa. Tous les autres péchés qu'un homme peut commettre n'impliquent pas intégralement son corps. Donc, son corps n'est pas entraîné dans ce péché-là, mais celui qui se livre à l'impudicité, qui agit comme une prostituée, c'est ça ici l'idée, qui est pornuo, encore là, toujours dans l'idée de pornographie, pèche contre son propre corps. Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous? Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même, car vous avez été racheté à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Autrement dit, notre union à Christ doit faire toute la différence dans la façon qu'on utilise notre corps. Même notre corps, qui pourtant on pense que notre corps, il faut pas vraiment porter bien attention à ça. Le cœur, c'est plus important, notre esprit, c'est plus important, notre âme, c'est plus important, le corps, c'est secondaire. ça se détériore, la chair fait partie de tout ça, puis tout ça. Mais pourtant, ici, Paul montre comme de quoi que non, on ne fait pas ce qu'on veut avec notre corps. Puis si vous avez remarqué, les Corinthiens, pour eux autres, dans le fond, ils avaient une devise qui était « tout m'est permis ». Et les aliments sont pour le corps, et le corps pour les aliments, donc profitons-en. En même temps, la sexualité, ça a été donné, et on peut en profiter comme on veut. Et Paul dit, non. Ton corps appartient aussi à Dieu. Alors, il dit ceci, ne lui donnez rien qui ne lui soit pas utile, au verset 12. C'est ce que Paul nous donne. On ne donne rien à notre corps qui ne soit pas utile. Et ce que ça veut dire ici, c'est qu'il procure un avantage. Verset 12, « Ne le soumettez pas à rien qui puisse l'asservir. » Donc, encore là, s'il y a quelque chose qui domine mon corps, je ne devrais pas faire ça. Et finalement, il dit « Consacrez-le exclusivement au service du Seigneur. » Au verset 13 à 20. Comment on fait ça? Pas d'inconduite, pas d'union illicite, pas de débauche. Autrement dit, la sexualité, mon corps lié à la sexualité doit s'exercer à l'intérieur du cadre que Dieu a donné, qui est le mariage, entre un homme et une femme. Et toute relation sexuelle en dehors du mariage est un usage illégitime de notre corps. Et en plus, imaginez-vous là, ce que Paul est en train de dire, c'est quand même assez spécial. Parce qu'il dit dans un sens deux choses. Notre corps, il est le temple du Saint-Esprit. Donc, et en même temps, notre corps, c'est les membres de Christ. Et je suis uni à Christ, tellement uni à Christ, que si je vais vers une prostituée, et possiblement ici, les prostituées en question, c'était des femmes qui étaient dans des temples païens à Corinthe et qui étaient au service du peuple pour communier avec les idoles à travers la sexualité. Vous comprenez un peu le principe? Donc, tu as une relation sexuelle avec une prostituée qui est vouée à la déesse du sexe ou de l'amour, et à travers elle, dans ta relation sexuelle, tu es en relation aussi avec cet être angélique ou ce dieu ou cette déesse en question. Et Paul est dit, vous rendez-vous compte de ce que vous êtes en train de faire? C'est que si tu as une relation sexuelle comme ça, avec une telle personne, ben t'emmènes Christ avec toi. Quoi? Oui, parce que Christ est en toi et tes membres, tes mains, ton corps, tout ce qui est tes organes sont liés aussi à Christ. Et d'aller voir une prostituée, c'est Christ aussi que t'entraînes avec toi. Est-ce que tu veux faire ça? Ben, il dit, ben non, tu veux pas faire ça parce que tu pèches contre ton propre corps. Et vous savez, tout ce qui peut se passer au niveau de la sexualité, c'est assez spécial. Parce que autant on a des microbes qu'on peut se donner quand on se donne la main, puis c'est le temps des microbes présentement, et les microbes circulent, autant par une relation sexuelle, tu peux donner aussi certaines maladies. Avant, on savait pas ça, là. On n'était pas conscient de ces présences là, de micro-organismes là, et de tous ces virus et bactéries, puis ainsi de suite. Mais spirituellement, et sexuellement, il y a quelque chose qui se passe quand tu es en relation avec une personne. Fait que si c'est pas ta femme ou si c'est pas ton mari, puis c'est quelqu'un d'autre, et cette personne-là, elle est souillée, cette personne-là est en relation, par exemple, avec les démons, ou est en relation avec des êtres spirituels parce qu'elle se donne à toutes sortes de choses qui sont de l'ennemi, il y a des choses qui se passent aussi au niveau de ton corps, comme au niveau de ton âme et au niveau de ton esprit. Et en plus, tu entraînes Christ là-dedans. C'est sûr qu'on ne souille pas Christ, parce que Christ est pur, Christ est Dieu, mais c'est comme, il ne veut pas être là. Mais il est là, il est en nous. On est son temple, tout comme l'Église, on est le temple de l'Église de Christ. Bien, chacun de nous, on est aussi le temple du Saint-Esprit. Il réside en nous. Et c'est pour ça qu'on doit se réserver uniquement pour Christ. Comment être libéré du péché de l'immoralité sexuelle? Et j'aimerais terminer avec ça. Vous Une des premières choses qu'on doit faire pour ceux qui luttent avec l'immoralité sexuelle, c'est de demander au Seigneur son aide en faisant une prière d'intercession, en apportant à Dieu, au Seigneur, son cœur. Et j'aimerais vous donner cette prière, parce que je sais qu'elle va être enregistrée aussi, mais c'est une prière qu'on peut faire seul à seul avec le Seigneur pour apporter notre cœur au Seigneur par rapport à cette dynamique de l'immoralité sexuelle avec laquelle certains d'entre vous, peut-être, sont en train de lutter avec. Mais c'est ceci. « Seigneur, je reconnais que j'ai enfreint tes lois morales en me laissant aller à des passions et à des activités qui m'ont conduit à la culpabilité, à la honte et qui m'ont éloigné de toi. J'ai cédé du terrain à l'ennemi par mes désirs, mes pensées et mes actions coupables, ce qui a affecté mon efficacité en tant que croyant. Seigneur, je veux renoncer à chaque désir, chaque pensée et chaque action qui m'ont amené à transgresser tes lois morales. Je veux que tu me laves afin d'être libéré de l'esclavage de chacun de ces péchés. Révèle-moi chacune des façons dont j'ai désobéi à tes principes moraux par mes désirs, mes pensées et mes actions. Je te prie en ton nom. » Si vous faites cette prière, que là le Seigneur commence à vous montrer les moments et les endroits et les personnes avec qui vous avez déshonoré son nom, avec qui vous avez été dans l'immoralité sexuelle, mais faites cette autre prière tout de suite après, avec chacune de ces situations-là, qui va être une prière de confession. La première, c'est une prière d'intercession. Vous demandez au Seigneur de venir interagir avec vous et de vous montrer les choses par rapport à l'immoralité sexuelle. Et la deuxième, c'est cette prière de confession. « Seigneur, je reconnais et je renonce à ma participation dans » et là, vous nommez ce que le Seigneur vous a montré, avec, et là, si vous avez le nom d'une personne, vous nommez son nom, et je te demande de briser cette emprise dans ma vie. Je te demande de reprendre le terrain que j'ai donné à l'ennemi par ses activités immorales, et je cède ce terrain à ton contrôle. Et finalement, vous demandez simplement au Seigneur de confirmer l'état de votre cœur. Seigneur, est-ce qu'il y a encore du péché dans mon cœur? Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau de l'immoralité sexuelle que j'ai oublié, que tu voudrais me rappeler pour que mon cœur soit pur, que mon cœur soit libéré, Jésus? J'aimerais être libéré de l'immoralité sexuelle. J'aimerais ne plus avoir à toucher à ces choses-là. J'aimerais, Seigneur, que mon cœur soit juste pour toi, autant mon corps que mon âme, que mon esprit. Est-ce que mon cœur est pur, Jésus? Vous savez, Jésus va vous dire « Oui, il est pur ton cœur » ou il va dire « Non, ton cœur n'est pas pur. » Puis il peut vous rappeler des choses, ça fait des années qui sont arrivées, mais vous avez besoin de les confesser au Seigneur pour qu'il puisse vous libérer de l'immoralité sexuelle et que Christ puisse faire toute la différence, même au niveau de la façon dont vous traitez votre corps et que vous le gardez uniquement pour le Seigneur. On va terminer ensemble dans la prière. Seigneur Jésus, alors nous venons à toi ce matin et nous voulons te remercier, Seigneur Jésus. Te remercier de ce que toi, tu peux faire toute la différence dans notre vie. Seigneur, tu vois chacun de nos cœurs ce matin. Tu vois ceux qui d'entre nous luttons avec l'immoralité sexuelle. Ou tu vois aussi ceux d'entre nous qui avons des conflits présentement avec un autre frère ou une autre sœur dans la foi. Seigneur, est-ce que, en tant que ton enfant, est-ce que je pourrais m'approcher de toi pour que toi, tu puisses faire la différence dans ma vie? Est-ce que tu peux, Seigneur Jésus, m'aider à régler chacun des conflits que je peux avoir d'une manière qui va t'honorer, Seigneur Jésus? Je reconnais, Seigneur, que ces conflits-là ne t'honorent pas, que ces conflits-là ne reflètent pas que tu es présent dans ma vie. Mais j'aimerais, Seigneur Jésus, que dans la façon dont je vais le gérer, que ta présence soit incontestable. Est-ce que tu peux venir, Seigneur, secourir ceux et celles qui sont aux prises avec des conflits? Tu vois comment leur cœur est tourmenté ou déchiré Et peut-être il y a de l'injustice, Seigneur, dans cette relation-là ou dans ces relations-là. Et tu sais, Seigneur, comment c'est compliqué, ces choses-là. Mais est-ce qu'il pourrait se tourner vers toi, t'ouvrir son cœur, laisser à tes pieds, Seigneur, toutes ces choses-là, et juste te demander, Jésus, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça maintenant? Comment toi, tu voudrais que je gère ça puis que je règle ça? Montre-moi le Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux faire ça, Seigneur Jésus, pour eux autres ce matin? Ou cette semaine, dans leur temps qu'ils vont prendre avec toi? Seigneur, on aimerait tellement être une église où c'est l'harmonie qui règne entre nous. Et s'il y a des conflits, parce qu'il va y en avoir, qu'on puisse les gérer, Seigneur, avec toi. Fais-nous la grâce, Jésus, en 2013, de regarder à toi, chercher ta face, s'humilier devant toi, Seigneur. Et tu connais mon propre cœur là-dessus, Seigneur Jésus. Et je voudrais tellement te refléter, tellement te glorifier. Et Seigneur, au niveau de la pureté dans nos vies, de garder nos corps pour toi, garder nos corps pour notre épouse ou notre mari, de garder nos corps dans la sainteté, tout comme nos cœurs, notre esprit. Ô Seigneur, est-ce que tu peux nous donner des victoires en 2013? Tu vois, Seigneur, comment l'immoralité sexuelle est souvent un péché caché, secret, mais qui détruit des vies, qui détruit des couples, qui détruit des familles. Ô Seigneur Jésus, la victoire, elle est là. Pourrais-tu la donner, cette victoire-là, Seigneur? Pourrais-tu permettre qu'un désir naisse ce matin dans le cœur de mes frères, de mes sœurs qui luttent avec l'immoralité dans leur vie? Les attirer à toi, Jésus, leur montrer que tu as la solution, que tu peux les purifier, que tu peux les délivrer, que la victoire est à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Merci de nous donner accès à notre union à toi. Et nous nous tournons vers toi ce matin, pour ta gloire. Amen.